Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein. C'est tout con.
J'y avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Celles et ceux qui suivent l'actualité du jazz sur Art District Radio, dont je rappelle que c'est la seule radio 100% art et jazz, auront peut-être écouté la chronique Jazz Spot que j'ai consacrée voilà quelques mois à un album intitulé A Change for the Dreamlike. C'est l'un de ces albums imaginés et enregistrés au cours des mois du désormais fameux confinement, lockdown pour les anglophones, démonstration que de cette sombre période, la lumière pouvait toujours trouver son chemin. Surtout, il s'agissait alors pour moi de présenter la musique de quelqu'un à qui je dois beaucoup, mais oui, même s'il n'est pas le seul. Une occasion que je ne pouvais négliger de remercier pour l'ensemble de son œuvre un musicien venu d'assez loin, d'outre-Atlantique et du Texas en particulier, qui ne serait donc pas un désert culturel absolu, venu donc des USA pour poser l'étui de sa trompette dans l'Est parisien, territoire sauvage peuplé d'artistes de tout genre et de lieux cosmopolites pour les accueillir ainsi que leur public. C'était le cas d'un de ces cafés-bars assez nombreux encore, je crois, La Fontaine de Belleville, mais qui a beaucoup changé depuis que les ombres masquées de la gestion de crise pandémique ont fait leur œuvre. Bref, l'histoire du lieu est longue et à la belle époque où je le fréquentais assidûment le samedi en fin d'après-midi, une belle idée que cet horaire décalé, j'ai pu y découvrir de nombreux musiciens et donc celui qui, au son de sa trompette, programmait et animait un toujours passionnant concert plus jam. Ce trompettiste vient de publier un album dont nous parlerons et dont nous écouterons plusieurs extraits évidemment. Mais d'abord, nous allons mieux faire sa connaissance. Bonjour Hermon Mehari.
Bonjour Serge.
Ça va bien Hermon?
Oui, je vais bien.
Ça va? Alors, je fais de temps en temps je plante le décor, si on peut dire. Moi, je suis en Turquie, dans la région d'Izmir, et nous sommes via Zoom. Maintenant, tout le monde connaît quasiment Zoom, même ceux qui ne s'en servent pas, je pense, qui nous permet d'enregistrer cette conversation, de nous voir aussi, ce qui rend un peu l'opération un peu plus conviviale, un peu plus sympathique. Et toi, tu es chez toi à Paris?
Oui, à Belleville.
À Belleville.
Je viens de venir des États-Unis et j'ai fait une tournée avec Peter Schlamm pour 2 semaines et on a un duo piano-trompette et c'était chouette.
Ah, c'est un autre duo piano-trompette, parce qu'on va parler un peu de duo piano-trompette hein, dans cette émission, ouais. Puisque c'est avec cette formation hein, duo piano-trompette que tu as enregistré, avec un pianiste dont nous parlerons aussi, bien entendu, l'album. Donc, tu reviens des États-Unis. Tu bouges beaucoup, hein, tu joues avec pas mal de gens. Bon, on va me dire, bah oui, mais le jazz, c'est souvent comme ça. Mais on va évoquer ton parcours dans cette émission. Tu es né, si je ne dis pas de bêtises, tu es né à Dallas, c'est ça?
C'est ça.
Voilà, donc un musicien texan. J'en ai pas eu beaucoup en interview. Si, j'ai eu un très jeune batteur, peut-être que tu connais, qui s'appelle G.D. Beck. Qui joue notamment en duo lui aussi avec une pianiste française, Domi de Galles. Ils ont un duo assez étonnant dans leur genre. Et GD est du Texas aussi. À tort d'ailleurs, peut-être tu peux nous dire ça, on n'a pas l'impression que le Texas est une terre de jazz.
En fait, je suis né à Texas, mais j'ai grandi à Kansas City.
Ah!
C'est une ville de jazz.
Ouais. Donc tu as grandi là-bas et découvert et commencé à apprendre la musique dans cette ville, Kansas City.
Ouais.
Tu as tout de suite choisi la trompette comme instrument. Je pose de temps en temps cette question aux musiciens que j'interviewe parce que il y a parfois des surprises. Les musiciens qui nous disent ah non non moi d'abord j'ai fait 12 ans de piano et puis après j'ai découvert l'accordéon un truc comme ça ou le saxophone.
Non, c'était de la trompette à l'âge de 13 ans.
Mm-hmm.
On avait, dans les écoles, on avait l'opportunité de jouer dans une band, dans un groupe, dans l'école.
Mm. Pour, mm.
C'est comme ça aux États-Unis en général.
Oui, il y a toujours un orchestre de l'école, du collège, tout ça. Et alors, là déjà, donc tout de suite, le jazz, quoi. Tu es passé par une formation plus classique?
C'était les deux. Donc, on avait un orchestre et une bande de jazz, une big band.
Mmh, ah oui.
Et oui, j'ai commencé tout de suite. Après un an, j'ai pris un cours d'improvisation. Et pour moi, ça, c'était le truc. Waouh, ça, c'était un bouleversement.
Ah.
Waouh. De faire la musique dans le moment. Et, c'est-à-dire, c'est moi qui crée la musique. Comme ça, c'était. Ça devenu un passion.
Ouais. On découvre une autre dimension de la musique,
ouais.
avec l'improvisation.
Exact.
Alors, sans nous faire un cours pratique et théorique, mais plutôt pratique, parce que ce ne sera pas possible, puisqu'on n'est pas en condition pour le faire, on n'a pas des instruments et tout. Ça m'intéresse justement de savoir, je crois qu'on n'a jamais vraiment, j'ai jamais vraiment parlé de ça avec un musicien. Comment est-ce que, avec donc déjà la base technique, etc., que tu as, comment est-ce que, avec quelqu'un qui joue le rôle de maître, hein, de formateur, comment est-ce que on fait découvrir l'improvisation à un musicien?
C'est pas difficile d'expliquer, mais.
Ouais, j'imagine, mais, pardon.
Bon, ça va. À la base, il faut demander aux étudiants de jouer un peu libre, un peu sans limitation. Et après ça, il faut montrer les artistes de jazz comme Miles Davis, et Charlie Parker, tout ça, et expliquer qu'est-ce qu'ils font.
Mm. Quand ils improvisent.
Exact. Mm. C'est ça la mélodie, c'est ça l'improvisation. Toi, tu peux faire ça aussi en jouant cette gamme. Quoi.
Parce que maintenant, Hermon, tu donnes des cours aussi.
Oui, je donne des cours. Et on parle de le développement des oreilles.
Mmh.
C'est plus
l'écoute.
Très important. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important.
Alors, je reviens un peu à l'expérience de La Fontaine de Belleville, hein, où j'ai fait ta connaissance et où j'ai pu voir, grâce à toi, grâce aux concerts et jams que tu organisais là-bas, pas mal de musiciens, hein, que je connais maintenant, dont j'ai déjà parlé, présenté la musique, qui sont éventuellement pour certaines devenus des amis. Et ça, c'est vraiment le terrain de l'improvisation, c'est-à-dire que... dans la première, bon, c'est une formule qu'on peut trouver dans de nombreux lieux dans le monde, hein, bien sûr, dans le domaine du jazz, concert plus jam. Et dans le concert, bon, on présente généralement des standards qui permettent d'installer un climat. Ça donne déjà un ton, et puis chaque musicien va intervenir justement avec son style, sa façon d'improviser sur des thèmes célèbres. Plus ou moins difficile parfois. Et puis ensuite, on a la jam où chacun vient apporter sa contribution en proposant ce qu'il a envie de jouer. Ça reste fondamental, hein, bien sûr, Hermon, même pour quelqu'un comme toi ou quelqu'un des musiciens avec beaucoup d'expérience qui ont peut-être, entre guillemets, moins l'occasion d'aller jammer dans des clubs, etc. Ça reste quand même quelque chose d'indispensable, d'essentiel.
Absolument. Ça, c'est une partie de l'histoire, la musique, de l'apprentissage et de la façon d'avoir une communauté ensemble. Mmh.
J'ai posé la question déjà, je ne sais plus à qui avait peut-être un musicien français, j'oublie qui avait pas mal résidé aux États-Unis, et je lui avais dit, malheureusement je ne me souviens plus ce qu'il m'avait répondu, mais j'avais dit j'ai l'impression qu'aux États-Unis des musiciens déjà qui ont une carrière certaine, des musiciens célèbres, n'hésitent pas à aller en jam dans des clubs comme ça, ils passent avec leur instrument, ils écoutent un peu, puis ils y vont, quoi. Que c'est moins pratiqué, par exemple, en France. Alors, toi qui es parisien aussi depuis quelques années, est-ce que tu ressens ça aussi?
Oui, oui, absolument. Ça, c'est dommage, en fait. Parce que ça, c'est aussi... Ça, c'est une part de la tradition. C'est très important parce que comme ça, les élèves, les étudiants, tous les jeunes musiciens peuvent communiquer, peuvent jouer avec les professionnels.
Bien sûr.
C'est très important.
Oui, oui. Bien, on va faire une première pause, Hermon Mehari, dans cette jazz interview qui t'est consacrée et à l'album dont on va parler un peu plus tard. Une première pause musicale avec l'un des titres que tu as proposé, qui figure donc sur l'album Arc Fiction. Je n'ai pas en dit son titre encore. Arc Fiction, peut-être, je vais mieux me renoncer à l'anglais, en duo avec un pianiste que l'on va présenter aussi bientôt. Là, c'est un standard, justement, on va revenir à cela. On écoute Donna Lee et on se retrouve tout de suite après, Hermon, pour la suite de cette jazz interview. Voilà, on vient d'écouter Donna Lee, un standard fameux, normalement attribué à Charlie Parker. Des spécialistes, exégètes, encyclopédistes du jazz disent qu'en fait c'est plutôt un morceau de Miles Davis, mais comme à l'époque Parker était plus célèbre, il aurait été attribué directement à Charlie Parker. C'est pas très grave, on a écouté un morceau magnifique et il figure donc dans cette version, dans une version on va dire original, piano, trompette, sur l'album de Hermon Mehari, Arc Fiction, dont on va parler plus en détail bientôt. Alors, quand tu étais aux États-Unis, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé la trompette, la musique, autour de 13-14 ans. Donc, entre ton adolescence et la fin de tes années, de tes 20 ans, avant d'arriver à Paris, tu écoutes des styles et des moments très particuliers de la musique de jazz, ou est-ce que tu es très, très large d'écoute, les oreilles très, très largement ouvertes pour emmagasiner un maximum de choses très différentes? Comment est-ce que tu as formé un peu ta bibliothèque, ta audiothèque personnelle?
Non, c'était plutôt ça, un peu large, comme tu as dit. Le jazz, c'était tout neuf pour moi. C'était un truc un peu étranger, je peux dire, un peu pas familier. Et donc, en fait, par hasard, moi, je suis allé au magasin du disque et j'ai vu le nom Miles Davis. Je me disais, ok, ça c'est un nom que je connais. j'ai acheté un album, c'était Kind of Blue.
Hey.
Par hasard.
Bah.
Et après ça, Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, au lycée, à l'époque, c'était pour moi Freddie Hubbard, Clifford Brown, John Coltrane. Et après, quand je suis allé au conservatoire, c'était un peu différent. C'était plutôt Kenny Garrett, Logan Richardson, Ambrose Akinbusier.
Ouais. Là, on est plus près de notre époque, on va dire, enfin plus près de l'époque actuelle avec Ambrose. Ouais, on a fait un petit point sur cette période, on va dire, américaine, où il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais avec l'album, moi, je ne savais pas vraiment, avec l'album précédent que tu as sorti, A Change for the Dreamlike, tu as aussi évoqué tes racines africaines,
ouais,
d'Afrique de l'Est.
J'ai grandi avec la musique. Aux fêtes, aux anniversaires de famille et tout ça. Mais j'ai pas étudié la musique.
D'accord.
Mais pendant le premier confinement, c'est ça que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai fait un morceau qui s'appelle Eritrea.
Érythrée, oui, en français. Oui.
En français. Ouais, parce que c'est spécial pour moi et je l'adore.
Oui, bien sûr, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ta venue à Paris? C'était un désir particulier, un hasard, une circonstance, une coïncidence?
Ouais, en fait, ma première fois à Paris, c'était 2010. Je suis venu avec mon groupe à l'époque qui s'appelle Diverse, avec Ben Leifer, un bassiste, et Ryan Lee, un batteur. Après ça, je suis revenu à Paris chaque année.
D'accord.
Donc, au bout d'un moment, je me disais, ok, c'est ma vie préférée.
Et D'accord. Ouais. Alors, bon, puisqu'on parle de voyage pas mal dans cette séquence, je me permets de dire aussi que, puisque j'ai dit tout à l'heure que j'étais en Turquie, tu viens aussi assez souvent, pas une fois par mois peut-être, mais de temps en temps quand même, tu viens jouer en Turquie, que ce soit à Istanbul ou encore récemment, j'ai pas pu y aller, mais c'est dommage, mais bon, dans une ville plus au sud, dans une célèbre, on va dire, ces célèbres stations de vacances un peu balnéaires, comme il y en a d'autres dans Turquie, mais Bodrum. Tu viens jouer, notamment avec une chanteuse que nous connaissons tous les deux, que j'ai pu rencontrer également, Selene Beytekin. Il y a aussi un autre feeling ici, non? Comment tu sens ça?
Ouais, c'est un autre feeling, c'est un autre monde. J'adore Turquie.
Ouais, je pense que quand on est musicien, l'expérience turque, il y en a d'autres, mais l'expérience turque est tout à fait originale et forte.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est
ça. Alors peut-être bientôt un album plus ou moins turc. Alors il y a un album qui est bien réel, bien actuel, qui est fait. C'est donc ce Arc Fiction avec le pianiste Alessandro Lanzoni. On va en parler plus en détail dans la séquence qui vient. Pour l'instant, on va faire une nouvelle pause musicale. avec cette fois aussi, parce que Donnelly, le standard qu'on a écouté tout à l'heure, figure dans l'album, mais là, une composition, alors on va le développer un peu après, une composition que vous partagez sur ce titre, Volver, avec Alessandro Lanzoni, donc au piano, Hermon Mehari à la trompette, l'album Arc Fiction, on l'écoute et on se retrouve pour la séquence troisième et dernière de cette jazz interview sur Art District Radio. Thank you. Après Donali, que nous avons écouté à la fin de la séquence précédente, Standard, qui figure sur l'album Arc Fiction de notre invité aujourd'hui, Harmon Mehari, on vient d'écouter Volver, un titre en espagnol, hein, on connaît le mot par un titre célèbre de film d'Almodovar, mais là c'est une composition. Alors, une composition à, je ne sais pas dire à quatre mains, parce que tu n'es pas pianiste, Harmon, mais que vous co-signiez, Alessandro Lanzoni, donc le pianiste, et toi, sur cet album. Ça va nous permettre de que tu nous dises comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé, comment cet album est né, et qu'est-ce que c'est qu'une composition comme ça, que vous décidez à la signer ensemble, tu vois, parce qu'il y a d'autres titres qui sont plutôt à lui, d'autres titres plutôt à toi. Là, c'est une composition mutuelle, commune à vous deux. Comment ça se fait ça?
En fait, la plupart des morceaux sur l'album sont des improvisations, comme Volver, en fait.
D'accord.
Et le truc, c'est...
Ça, a priori, ça signifie, quand on arrive à faire ça, moi je ne suis pas musicien et j'ai encore moins l'expérience de l'improvisation musicale, en tout cas, interview éventuellement, mais, mais ça veut dire que les musiciens se connaissent très bien, alors, parce que pour arriver à faire ça, parce que improviser directement et en plus arriver à construire en improvisant, même s'il y a plusieurs prises éventuellement, un morceau qui tient comme ça, avec un début, une fin, un développement, etc., c'est quand même pas évident, non?
Et moi et Alessandro, pour moi, c'est de la magie. Et on a joué pour la première fois avec, c'était un jam à Florence.
À Florence, oui. Oui, parce qu'on rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, qu'Alessandro Lanzoni, on peut s'en douter avec son nom, est italien, donc évidemment. Et l'album a été enregistré en Italie, c'est ça?
Exact. Et 2-3 ans après ça, on a joué dans le groupe de Michelangelo Scandroio. On a beaucoup aimé le rapport entre nous.
D'accord.
On va faire un album ensemble. Et donc, on a choisi de faire les improvisations comme la base de l'album. Et d'avoir la composition entre
d'accord.
Les improvisations.
Ok. Et ce que je voudrais revoir avec toi à ce propos-là, comme on vient de l'évoquer avec le pianiste, donc Alessandro Lanzoni, tu as, et ça c'est très important j'imagine pour un musicien, c'est de s'ouvrir aux univers d'autres musiciens. Tu fais pas mal de collaborations, toi, tu sideman comme on dit dans le milieu aussi. Tu joues avec d'autres pianistes, bien sûr, que ce soit Tony Tixier, dans ce précédent album, ton premier, tu avais joué avec Aaron Parks, etc., et puis bien d'autres. Et puis, tu collabores aussi avec des musiciens leaders sur un album. Tu as récemment fait une collab avec Célène, hein, Saint-Aimé, qu'on salue au passage et on félicite encore pour sa victoire, révélation du jazz, la toute récente. Tu joues aussi avec un vibraphoniste qu'on connaît bien, Alexis Vallée. Tout ça, c'est important parce que ça apporte des éléments comme ça, de la matière. Tu as tout d'un coup dans les oreilles, en tête, tu as des sons, des façons d'imaginer la musique et de la jouer qui sont très complémentaires, mais très différentes les unes des autres, avec bien sûr la personnalité des musiciens eux-mêmes. Il ne s'agit pas juste d'être pianiste. Tony, il ne joue pas exactement comme Aaron Parks ou ni comme Alessandro Lanzoni, j'imagine. Et pour toi, à chaque fois que tu rencontres des musiciens comme ça, c'est ouf, je suis... c'est une nouvelle expérience. Et même avec le même musicien, souvent, on découvre d'autres ouais. facettes comme ça. C'est très important, ouais. ça. C'est, on ne peut pas se couper de ça si on veut avancer... Enfin, avancer, oui, si on veut découvrir. Tout à l'heure, j'ai évoqué une chanteuse, Selene Beytekin, qui est turque, avec laquelle tu joues de temps en temps ici en Turquie. Il y a une autre chanteuse aux côtés de laquelle on peut t'entendre tout récemment, et c'est important pour Art District, puisque pour le label d'Art District, c'est Estelle Perrault. Ouais. Et on t'entend, tu es pas juste là pour deux trois petits moments, tu es assez présent sur cet album. Toi, du côté sideman, comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que tu considères que c'est un ou une instrumentiste de plus, parce que l'instrument c'est sa voix, ou est-ce que c'est une autre dimension complètement? Est-ce que c'est autre chose?
Pour moi, c'est une autre chose parce que Je suis un accompagniste. Est-ce que ça c'est le bon?
Accompagnateur.
Accompagnateur.
Oui, oui, mais on peut garder Sideman, c'est pas grave.
mais je veux dire ça parce que c'est.
Ah oui.
C'est pas juste Sideman. C'est,
ouais, tu accompagnes, ouais.
Oui, c'est ça. Et c'est la chanteuse qui est la plus importante dans ce contexte. Et il faut jouer autour de ça. On est derrière la chanteuse. On est, c'est pour
ouais, elle. Comme tu disais, autour, c'est bien, quoi. C'est-à-dire, il faut aménager quelque chose. Tu pourrais avoir un projet un jour où tu invites des vocalistes comme ça sur chaque morceau. Et ça, c'est encore une autre expérience avec des vocalistes différents de titre en titre.
Oui, en fait, j'avais cette idée. Je voudrais faire ça.
Avant de terminer cette séquence, Hermod, je voudrais qu'on parle de choses qui sont un peu satellites de l'album lui-même et de cette activité. C'est-à-dire que... Alors, Il y a plein de choses, mais il y a quelque chose dont j'aimerais en particulier parler, c'est le label et le collectif MIR, M-I-2-R, hein, M-I-R-R, qui est aussi le label, hein, c'est ça, de l'album, ou je dis une bêtise là ? Non, c'est ça. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce côté collectif qui donc permet à un certain nombre, ça se développe, hein, c'est pas encore très ancien, mais à plusieurs musiciens, dont... Benjamin Sands, le batteur avec lequel tu as travaillé déjà, et puis qui est un album aussi. Il y a même un festival, MIR, hein, c'est ça, MIR Jazz Days, qui a lieu, qui a été organisé au 360 Paris Jazz Factory, là, à la Goutte d'Or à Paris. Tu aimes bien, tu es assez, j'ai l'impression que tu es assez, pas hyperactif, parce que ça, c'est un côté un peu péjoratif parfois, mais tu es gourmand, ça, je sais que tu es gourmand au sens strict, parce que tu aimes bien, la gastronomie, les bons plats et tout ça, mais tu es gourmand d'activités et différentes, tu fais la photo aussi.
Oui.
Tu aimes bien faire la photo, etc. Donc, j'ai l'impression que tu développes une activité créative, artistique, sur différents plans, dans différents domaines comme ça, qui se rencontrent à l'occasion d'un projet particulier. Tu animes même un show radio, hein, collègue, donc, sur une radio, une web radio américaine, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ou une radio
Non, c'est un radio NPR.
Ouais, d'accord.
Kansas City.
À Kansas City, oui. D'accord. Ouais. Alors, on va rappeler, avant de se dire... au revoir, que l'album Arc Fiction est tout récent, vient de paraître, qu'il est donc produit, sorti sur un label et collectif qui s'appelle MIR, M-I-R-R, qu'on puisse le procurer sur toutes les plateformes, j'imagine, accessibles habituellement, n'est-ce pas, Hermon ? Et que donc c'est un album en duo. Ça revient, j'ai l'impression que ça revient assez fort l'expérience duo en jazz, hein, piano. Bah là, on a vu Alain Jean-Marie et Diego Humbert récompensés aussi pour leur hommage à Bill Evans, etc. Mais il y a parfois des duos assez surprenants, même musicalement, hein, avec le batteur et associé à un autre instrument qui peut être la harpe ou je ne sais pas quoi. Mais le duo, alors peut-être aussi pour des raisons économiques, mais j'ai l'impression que le duo artistiquement... Et c'est très intéressant. Reviens, tu as cette impression aussi, tu sens ça, tu vois ça, les musiciens te disent ah ouais, moi je vais faire un duo avec un tel, ah moi je fais un duo avec ça.
Ouais, c'est à la mode, peut-être. Mais c'est super, parce que c'est plus intime, c'est en même temps c'est plus ouvert pour le duo, au niveau de harmonie, de space, son, tout ça. Donc c'est spécial parce que quand tu ajoutes un autre instrument, ça c'est déjà une autre chose complètement. C'est pas la même chose.
Alors peut-être qu'un de ces jours tu vas un big band aussi, tu vas peut-être lancer <Ouais. rire> l'autre, l'extrême opposé en quelque sorte. Voilà. Bon, en tout cas, je recommande à nos auditeurs et à tout le monde qui entendra cette émission d'une façon ou d'une autre cet album en duo, donc piano Alessandro Lanzoni et à la trompette donc mon invité aujourd'hui Hermon Mehari. Voilà. Bon, Hermone, merci beaucoup. Voilà, et on va se quitter, bien sûr, se dire au revoir en écoutant le troisième morceau que tu as choisi. Alors là, dont tu revendiques l'exclusivité de la composition, c'est Dance Cathartic, qu'on écoute maintenant. Et au revoir, à bientôt, Hermone et la trompette.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Laurent de Wilde et pas de Wild.
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview, pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Thank you.